Salut Izou, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Donc tu fais des courts-métrages d'animation notamment, mais tu travailles aussi sur des parties en particulier dans la fabrication, le compositing et la lumière en particulier. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Et j'aimerais bien faire un petit tour au début de ce que tu as fait par le passé, les différents courts-métrages. Je sais que j'ai découvert ton travail avec Féroce, qui n'est pas ton premier film, et j'ai pu voir les autres récemment que tu as pu me présenter.
Ben, bonjour à toi. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai un parcours. J'ai commencé très tôt. Moi, l'animation. J'ai commencé à bricoler des petits films quand j'avais 12-13 ans. Vraiment. Là, c'était en Super 8 parce que les caméras vidéo à l'époque, on pouvait pas faire de l'image par image. Donc, c'était l'enfer. Donc, il y avait que la pellicule pour le faire. Donc, voilà. J'ai commencé à faire un petit film. J'avais 16 ans. Et puis ensuite, voilà, complètement en autodidacte avec des bouquins, en lisant ce que je pouvais trouver sur l'animation pour fabriquer un banc de titres moi-même aussi pour pouvoir filmer, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, c'est à La Fabrique, au studio La Fabrique, à Montpellier, là, un réalisateur qui s'appelle Bernard Palacio. Et j'avais juste écrit parce que j'avais trouvé l'adresse sur l'annuaire quand j'avais 16 ans, quoi. Et je lui avais demandé conseil comment on pouvait faire se lancer dans l'animation. Et lui, il m'avait très gentiment répondu en me disant, ben voilà, de passer, et puis qu'il montrerait le studio, qu'il me ferait visiter. Et moi,
Ah
j'ai
oui,
dit, bon,
c'est une
voilà,
super occasion.
j'étais allé avec mon père, on avait visité le studio, je lui avais montré ce que je faisais en Super 8, le petit film que je faisais. Et là, il m'avait dit, c'est bien, mais il va falloir en Super 8, t'arriveras, voilà, il n'y a pas de son, il n'y a pas de, voilà. Donc, il m'a prêté une caméra à 16 mm, il m'a dit, bah, tu peux le refaire en 16 mm. Donc là, je me suis refabriqué un banc-titre pour pouvoir le tourner en 16. Et puis après, ils m'ont laissé à La Fabrique comme ça, faire le montage avec leur table de montage, avec voilà, juste l'anecdote, c'est même que mon grand-père m'avait fait un livret de caisse d'épargne pour passer le permis, et finalement j'ai tout utilisé pour payer la pellicule. Et j'ai toujours pas le permis. Voilà. Mais voilà. Et c'est comme ça que là j'ai fait mon premier film, mais vraiment en amateur. J'étais au lycée. Et donc après j'ai tenté. J'ai fait une école de beaux-arts à Montpellier. Là, il n'y avait pas vraiment de spécialisation animation. Donc là, c'était vraiment très très artistique, très voilà. Et là, moi, j'étais un peu moins à l'aise dans ce type-là, parce que j'avais vraiment envie de faire des films, quoi. C'était vraiment mon truc, quoi. Et donc là, j'ai fait un autre film encore presque en amateur, hein. Là, c'était aussi avec La Fabrique. Ils m'ont produit alors qu'il n'y avait pas d'argent quasiment. Voilà, j'ai tourné là-bas avec leur bande-titre. Là, c'était en 35 mm. Et j'ai eu de la chance, c'est que finalement j'ai pu tester la pellicule dans les dernières années où on faisait encore des films en pellicule. C'était les années 2000. Et pour l'image par image, c'était encore plus simple, quoi, de faire. Là, ils étaient à l'époque, ils étaient en train de faire le Château des singes. Donc voilà, et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Jean-François Leguillonni, voilà, avec qui voilà, on discute toujours de projets, de choses comme ça. Voilà, je lui demande des conseils. Et donc là, j'ai fait un autre film en même temps que je faisais mes études aux Beaux-Arts. Et puis là, j'avais appris que la Poudrière, voilà, se créait, l'école de la Poudrière. Et j'ai postulé, et voilà, je suis arrivé dans la deuxième promo de la Poudrière, quoi. Et c'est comme ça que là, j'ai un peu appris, voilà, avec des choses un peu plus professionnelles, quoi, sur l'animation, quoi. Mais moi, j'ai toujours fait du bricolage, hein, au début.
Bah, j'ai
Voilà.
l'impression que c'est un peu le profil justement à la Poudrière où c'est beaucoup plus fabrication de films plutôt que spécialisation technique, de ce que je comprends.
Ouais, complètement, ouais. Parce que moi, c'est là aussi où je me suis aperçu que l'animation en tant que telle, je me sentais pas, voilà, c'est pas la chose qui m'intéressait. J'avais pas envie d'être animateur. Et ça, j'ai compris assez vite. J'animais parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait bien le faire. Mais quand j'ai commencé à découvrir que, voilà, les autres, il y avait plein de gens vachement plus talentueux que moi. Donc je me suis dit, moi je préfère travailler la mise en scène, faire mes films, et surtout, voilà, je me suis gardé les décors, voilà, et c'est là où j'ai commencé à faire un peu de compositing pour éviter de faire de l'anime finalement,
Ouais.
parce que voilà,
Bah,
et
c'est vrai
voilà.
que ça, c'est un truc que je répète souvent dans les discussions, dans les vidéos, c'est que dans l'animation, il y a tellement de choses différentes à faire. Et on est souvent au début focalisé sur l'animation en elle-même de personnages. En plus, on pense pas aux FX ou aux choses comme ça. Donc,
Ouais.
c'est souvent une sorte de déclic de, en fait, les décors, c'est intéressant. En fait, le storyboard, c'est intéressant. Et ensuite, on se met à aller vers ça. Donc, ça, c'est plus l'école qui t'a permis de montrer ça.
Ouais, mais là encore, quand j'étais à la Poudrière, j'ai animé moi-même sur mon film. On faisait un film d'une minute après le film de fin d'études, et donc voilà, je faisais comme je pouvais, hein. On avait quand même, on avait un peu des cours d'anime. On avait même, avant de commencer la Poudrière, on avait un mois avec un, c'était 2 semaines avec deux animateurs différents pour un peu nous apprendre à nous mettre un peu dedans, quoi. Donc moi, je me souviens, il y avait eu Serge Elissade et Guy Delisle aussi qui était venus pour nous faire des exercices d'anime, pour nous dérouiller un peu, quoi, finalement, là-dessus. Parce que même à l'époque, il y en avait même d'autres étudiants qui faisaient du volume, mais qui dessinaient pas, qui étaient pas trop à l'aise avec l'anime 2D ou quoi que ce soit. C'était vraiment apprendre à faire des films, apprendre à, voilà, le découpage, le scénario, et c'était vraiment, et là, moi, je me suis dit, c'est ça qui me plaît, quoi.
Et donc après l'école, comment ça s'est passé la transition vers le premier court-métrage produit, etc., on va dire plus pro?
Bah, après l'école, c'était la fin. Là, moi, j'ai terminé la Poudrière. À Folimage, ils étaient en train de terminer c'était la Prophétie des Grenouilles. Et moi, je sais que quand j'étais à la Poudrière, j'ai fait pas mal de génériques, du motion design, tout ça. J'aimais bien, pour les autres étudiants, j'avais fait un peu les génériques de leurs films. Et j'aimais bien ça. J'étais assez passionné par ce travail-là. Et donc, je m'étais proposé à Folimage. D'abord, j'avais demandé, c'était à Jean-Loup Félicioli et Alain Gagnol. Ils avaient pas de budget assez pour leur film pour que je puisse faire un générique. Et voilà, moi, j'étais prêt à tout pour faire. Je me suis dit, même s'il n'y a pas d'argent, c'est pas grave, mais eux, ils étaient très réglo là-dessus. Si on travaille, voilà, il faut un salaire pour pouvoir travailler. Et donc, je suis arrivé sur le générique. J'ai fait le générique de fin de la Prophétie des Grenouilles. Voilà, donc le générique du début, c'était, j'étais un peu trop débutant, donc Jacques-Rémy Gérard, il avait préféré me laisser le générique de fin déjà, et pour voir un peu comment ça se passait et tout ça. Et c'est juste après ça où il y avait des courts-métrages qui étaient en fabrication, et on m'a proposé d'être assistant en compositing sur un des films. Je crois que c'était La tête dans les étoiles, de Sylvain Vincendo. Et là, j'ai commencé à vraiment faire du compositing, parce qu'il voulait beaucoup d'effets de lumière, de choses comme ça. Donc là, j'ai expérimenté. Et puis au final, j'ai quasiment fait le compositing tout seul, quoi, du film. Et après, j'ai enchaîné. C'était sur, il y avait sur les films, sur Mauvais temps aussi, de Jean-Loup Félicioli et Alain Gagnol. Et voilà, j'ai fait plusieurs courts-métrages. Après, j'étais tout seul au compo. Et c'est comme ça, après, que sont arrivés les longs-métrages, les autres longs-métrages. Donc, il y avait Mia et Migou aussi, on était deux au compositing sur Mia et Migou. Donc, il y avait un chef compo et moi. Comme on était en équipe très très réduite, ça m'a permis d'expérimenter. Voilà, le chef compo m'avait laissé pas mal de liberté sur des il m'avait laissé des séquences entières, comme il voyait que j'aimais bien travailler les effets spéciaux. Et comme dans Mia et Migou, il y a beaucoup de scènes avec un peu apocalyptique, avec du feu, avec plein de choses. Donc il m'a laissé travailler là-dessus. Et donc après, sur les autres longs, j'ai quasiment travaillé sur tous les longs de Folimage. Après, quoi, et même sur ceux de Jean-Loup Félicioli et Alain Gagnol, là, sur Phantom Boy et Inuitcha, là, j'étais tout seul au compo pour refaire compo, effets spéciaux,
C'est fou qu'il y
même.
ait aussi, enfin, que ça soit une équipe aussi réduite
Ouais.
sur des films, quoi.
Ouais, celle-là. Ben oui, Jean-Louis et Alain, ils aiment bien comme ça avoir. Que je sois là pendant longtemps, pendant quasiment toute la fabrication, je suis pas loin, je suis dans le bureau à côté, des fois même je travaille sur d'autres films en parallèle. Et comme ça, si eux, ils avaient besoin d'essayer quelque chose, ils pouvaient de suite me le demander. Et ils n'avaient pas besoin d'attendre la fin du film pour voir si ça fonctionnait. Et je pense que c'est une méthode qui leur convenait bien pour ça. Et c'est vrai que, et en plus, pour apprendre, c'est parfait parce que voilà, on a la continuité du film, on peut s'organiser. Moi, j'ai appris à m'organiser sur les films comme ça, savoir qu'est-ce qui était le plus efficace. Mais quand on est tout seul, des fois, ça fait gagner aussi vachement de temps parce qu'on explique, on a besoin de rien expliquer, on n'a pas, voilà, j'avais juste les réals à faire, voilà, je leur montrais les plans, ils validaient, ils me donnaient des retouches, voilà, c'était simple. Et c'est comme ça, en même temps que j'ai appris à faire plein de trucs, voilà, faire de la 3D, j'en faisais pas avant, c'était un peu sur le tas, quoi, non, parce que
Bah, j'ai
j'ai.
l'impression que c'est assez souvent comme ça, finalement, des choses qu'on apprend au fil des productions. Et le plus dur, en tout cas, de ce que je vois dans les discussions, c'est d'avoir le premier contact, le premier pas, en fait, dans un studio. Et ensuite, derrière, si on fait des trucs chouettes, ben, on passe à d'autres productions, etc. Et ça coule un peu mieux, quoi.
Ouais,
T'as senti ça
complètement.
comme ça?
Et puis c'est des fois c'est voilà, c'est avec des réalisateurs, voilà, on s'entend bien. Jean-Louis Alain, c'est deux réalisateurs, voilà, maintenant ça fait j'ai travaillé sur tellement de films avec eux, qu'on se connaît vraiment bien. Voilà, après c'était même sur j'ai travaillé jusqu'à Tantilda sur les longs métrages avec Benoît Cheux aussi qui avait travaillé sur Mireille Mingou, voilà, qui me demandait des fois d'essayer des choses au niveau des effets spéciaux, des idées un peu comme ça. Il avait une idée, on essayait, on voyait ce que ça donnait, et comme voilà, il y avait peu de monde, et on pouvait se permettre de tenter des expérimentations qu'on a.
Et pendant ce temps-là, toujours l'envie de faire des films courts avec d'autres histoires, etc. Donc,
Oui,
tu fais
c'est.
ça en parallèle, ou c'était quand c'était sur un court-métrage, t'es à temps plein sur un court-métrage, ou comment ça marche?
Non, 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 là, c'était comme c'est toujours les courts-métrages, c'est très long à chaque fois à financer. C'est beaucoup moins long à fabriquer qu'à financer, quoi, finalement. Souvent, c'est des années. Donc, j'ai tout le temps fait préparé des courts-métrages en parallèle des films sur lesquels je bossais en compo, quoi. Donc, même à la sortie de La Poudrière, j'avais commencé à travailler sur Ceux d'en haut. Donc, c'était en 2001, par là. Et le film, il s'est terminé en 2012. Donc, ça, c'est passé plus de 10 ans, quoi, parce que c'était un film qui est long, qui dure 25 minutes. Donc, c'était un peu compliqué à faire. Et puis, surtout, voilà, je débutais un peu. Donc, entre-temps, j'ai travaillé sur d'autres films à Folimage. J'ai fait un autre court-métrage, Le Bûcheron des mots, qui a été fait entre-temps. Et comme Le Bûcheron des mots, voilà, après il a pas mal tourné, et donc c'était plus facile, je pense, de me faire confiance pour un film un peu plus long. Tenter un film de 25 minutes, c'était un peu plus, voilà, c'était plus rassurant, je pense aussi au niveau prod. Mais même si Ceux d'en haut, c'est pas un gros budget, hein, c'est pas un budget de 26 minutes, hein, c'est presque la moitié d'un 26 minutes classique. Pour télé et voilà, donc là j'ai fait ça. Après pareil, Féroce, ça a été presque 4 ans, quoi, 3 ans de recherche de financement et 1 an de fabrication.
Ouais,
Donc
donc pendant la recherche de financement ou même avant, bah, tu fais ta pré-production, finalement, tu fabriques
voilà, c'est
les
ça.
bases.
Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir maintenant de plus en plus, je me dis, il faut avoir plusieurs projets en parallèle, même en court métrage. Bosser sur des choses, avoir quelques. Voilà, travailler sur des idées, des concepts, et puis voir un peu qu'est-ce qui se développe, sur lequel on est le plus à l'aise. Et puis, voilà, parce que même là, ça fait quelques années là, que je suis sur un projet d'omnibus, de film, L'étrange collection, là, avec Folimage, donc, où il y a six histoires d'horreur adaptées de littérature. Et c'est long, hein, parce que là, c'est en plus d'être une idée de long métrage, c'était, je pensais faire ça après Féroce, Et finalement, je m'aperçois que j'ai eu le temps de faire un court-métrage entre-temps, avec le voyage immobile. Et là, on est encore en développement pour ce projet-là, quoi. Donc c'est bien de pas être à 100%, de pas être focus à 100% sur un projet, d'avoir plusieurs possibilités et d'être un peu
Des fois qu'il y en a
flexible.
un qui se débloque avant, qu'on puisse fabriquer avant l'autre, etc., quoi.
Voilà, complètement, ouais. Parce que ça, c'est important, parce que sinon, s'il y en a un qui bloque, on se retrouve un peu coincé, parce que redémarrer un autre projet, donc c'est, après, c'est pas facile de travailler en parallèle sur plusieurs films, mais je pense que, voilà, par sécurité, c'est pas mal quand même. Hein.
Et je voulais juste faire un petit point sur le côté distribution, diffusion de ces films-là, parce que j'ai vu que dans le Making of de Féroce, tu disais que ceux d'en haut, c'était pas évident à placer en festival, par exemple, parce que c'est un film plus long, aussi c'est un film angoisse, etc. Est-ce que c'est une difficulté de faire des films d'animation justement dans ces genres-là, un peu plus horreur, thriller, des choses comme ça?
Ouais, c'est compliqué hein, parce qu'on est c'est déjà sur Féroce en plus c'était un peu extrême comme film, c'était vraiment bah c'est un film de genre typique hein.
Un survival, ouais.
C'est ça quoi. Donc au niveau distribution, on a essayé il a plus tourné par exemple à l'étranger qu'en France. C'est étrange, mais parce que souvent les festivals, en plus de films de genre, un festival par exemple comme Gérardmer, prend pas d'animation dans les courts-métrages.
Ah
Donc
oui, pas du tout, ok.
non, pas du tout. Donc c'était un peu, je sais pas si ça a changé depuis, mais à l'époque c'était pas possible. Donc il y avait que certains festivals où on pouvait, voilà, parce que déjà je pense que peut-être que le public de amateur de films d'horreur est pas forcément un public qui regarde beaucoup d'animation. Et faut montrer qu'on peut être au niveau aussi de certains films d'horreur. Donc il y a des choses à prouver. Et c'est vrai qu'en dehors de l'anime japonaise, il n'y a pas beaucoup de films de genre en animation. Et quand on se lance en plus dans les longs métrages, c'est encore plus complexe. Hein, là, et c'est pour ça que là c'est de la SF. Mais quand je vois Mars Express, je me dis enfin quoi, ça fait du
Bah c'est
bien.
ça, c'est à la fois c'est un film qui est bon en lui-même, et à la fois ça veut dire un truc sur la possible suite en fait sur ce genre de film-là, quoi.
Oui, comme j'ai perdu mon corps à son époque, voilà, mais c'est toujours compliqué, quoi. C'est long à développer, c'est long à financer. Donc,
Ouais, c'est ça, et même un long métrage plus grand public, c'est aussi très long à financer et tout ça, donc
déjà.
c'est quoi
Donc,
qu'il arrive, c'est un peu ouais,
donc, on est
difficile.
obligé d'avoir des budgets très réduits. Donc, c'est ça, parce que c'est souvent les chaînes de télé qui freinent un peu pour donc, voilà, parce que c'est vrai qu'au niveau diffusion, c'est quand on a un film féroce, par exemple, il est interdit moins de 12 ans. Ce qui n'est pas trop habituel pour des films d'anime. Donc, voilà, et là, on n'avait pas de diffuseur à l'époque. On n'en a toujours pas. Hein, et c'est pour ça que celui-là, moi, j'avais proposé à Folimage de le mettre sur YouTube, voilà, juste après sa vie en festival. Parce que je me suis dit, c'est le genre de. Voilà, c'est le film. Ça correspond plus à un film à mettre comme ça librement sur YouTube. Parce que je ne suis pas sûr que la VOD, ça marche. Comme il n'y avait pas non plus de support physique, de distribution de support physique, Blu-ray, DVD. Donc c'était ça, c'était
Oui,
un peu
pour qu'ils
compliqué.
vivent un peu quand même.
Sur les autres, sur ceux d'en haut et le Bûcheron des mots, on a réussi de faire des DVD. Et même ceux d'en haut, j'ai quasiment fait tout dessus, là, que ce soit les bonus, même l'autoring du Blu-ray. J'ai réussi à faire un Blu-ray et Folimage l'a sorti. D'ailleurs, c'est le seul court-métrage qui est sorti en Blu-ray. C'était une expérience, quoi. Mais comme moi j'aime bien ça, je suis amateur de support physique, j'avais envie d'avoir aussi un objet comme ça, avec plein de bonus. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et puis pour justement Féroce, il y a le making of qui est sur YouTube aussi en plusieurs parties, tout ça, où il y a plein d'explications sur comment ça a été fait en détail. Et juste avant que tu montres un peu des images justement, est-ce que tu peux dire quelques mots sur le voyage immobile le court-métrage que tu viens de finir?
Ouais, ben celui-là, La Louège Mobile, ben je l'ai fini il y a très peu de temps, hein, c'était il y a un mois.
Ouais.
C'était en mois de décembre. Donc là, c'est un court-métrage qui est là, je suis sorti du film de genre. Là, c'est plus dans le film histoire d'amour. Hein, donc c'est qui se passe, c'est une adaptation d'une nouvelle de Jean Vautrin sur la vie d'un couple qui se lance dans un projet de prendre une photo quotidienne pour créer le film, une sorte de film d'une vie, quoi, en time-lapse. Voilà, et le film va se déroule sur 40 ans. Et là, par rapport à ce que je vais montrer après, là, c'est vraiment, là, je suis allé dans l'extrême au niveau du travail de l'image, de la patine, de la
Du
lumière.
gras et tout, ouais.
Ouais, mais là, c'était vraiment, c'est des choses que j'avais développées avant. Mais là que j'ai eu envie de pousser au maximum sur celui-là, quoi. Parce que sur 40 ans, en plus, il y a aussi
Changement de
40
format,
de
etc. Ouais,
format
beaucoup de
d'image,
choses.
voilà, de l'histoire du cinéma. Et voilà, moi, je suis déjà, peut-être encore plus que l'animation, moi, je suis un vrai passionné de cinéma. Et donc, voilà, donc j'avais toutes mes références qui revenaient, que j'avais envie de développer, quoi. C'est vrai que là, quand je parle d'animation, c'est vrai que moi j'ai pas mal de références de live. Donc j'ai essayé comme ça d'apprendre à utiliser la lumière par rapport au live, essayer de comprendre comment ça fonctionnait en live, ce qui m'intéressait, et de transposer ça. Et là, ce que je vais, par exemple sur mes premiers films, et déjà quand j'étais à La Poudrière. J'ai commencé à travailler avec une chef-op de live qui venait à plusieurs étapes au moment où je faisais le storyboard et l'animatique pour avoir un peu les cadrages, pour avoir un point de vue de quelqu'un qui tient vraiment une caméra. Et ça, après, je l'ai repris elle a travaillé avec moi, Claude Garnier, sur le Bûcheron des Maures, après sur ceux d'en haut. Après, j'ai commencé à avoir appris avec elle, et j'ai un peu pris mon indépendance et j'ai commencé à faire moi-même la lumière de mes films. Mais c'est vrai qu'elle m'a énormément appris à utiliser la lumière pour raconter vraiment quelque chose dans la narration, quoi. Et ça, c'était un truc voilà, que j'ai découvert progressivement et que je retrouve pas des fois pas assez dans l'animation. Ça manque un peu dans l'animation. Ou après, c'est un autre style, hein. C'est vrai que souvent on a des très belles images de l'illustration, presque de l'illustration animée. Mais moi, c'est vrai que je suis plus dans un cinéma d'animation qui est influencé par le live, que ce soit au niveau de la caméra ou de la lumière, et moins par le dessin en lui-même. Donc, d'ailleurs, tous mes films au début, je les pense en live. Et souvent, je les adapte dans ma tête en animation. Donc voilà. Je pense que là, voilà, un jour, là, je vais me mettre à faire du en live aussi, quoi, parce que c'est un truc qui m'intéresse, quoi.
Ouais, c'est ça, et puis c'est similaire sur plein de points, et puis il y aura la direction d'acteur en plus et tout, enfin là tu
Ouais,
l'as déjà
complètement.
avec les voix bien sûr, mais ça va être tout un autre domaine, et c'est pour ça que les frontières sont pas très épaisses non plus, quoi, entre la mise en scène live et la mise en scène animation, la façon de fabriquer est pas la même, mais dans la mise en scène en soi,
Voilà. Et
c'est
puis dans
pareil, quoi.
l'équipe aussi, l'équipe souvent, il y a des personnes, par exemple, pour le mix, pour la musique, c'est tout des personnes qui viennent pas du tout de l'animation, quoi. Donc là, on a vraiment un rapport de cinéma, quoi, et pas d'anime, quoi. Quand je m'inspire de la lumière, c'est par exemple des plans comme ça. J'essaye de voir un peu comment ça fonctionne, d'essayer de comprendre le travail de la lumière. Et par exemple, je sais que j'ai énormément été influencé par Darius Conji, qui est un chef-op qui a bossé sur Seven, sur Délicatessen, et qui a vraiment un travail. Et en plus, c'est intéressant, je trouve, par rapport à l'animation, c'est que lui, il travaille souvent, par exemple, pour les intérieurs, il part de l'obscurité et il monte cette lumière progressivement. Par petites touches. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a influencé en dessin, quand je fais mes décors, en peinture, pour retrouver ce type de travail sur la lumière, quoi. Et donc, ça, c'est les brillances aussi, des fois. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez important pour moi. Et voilà, jusqu'au beaucoup plus contemporain, plutôt plus ancien. Voilà, donc là, c'était par exemple les références pour le voyage immobile. C'était essayer de retrouver ce type de lumière un peu diffuse qu'on a dans les films des années 40, quoi. Et donc voilà, pour ça, c'est vraiment l'influence de ce type de cinéma et du cinéma en général, où j'essaye après de transposer en animation. Donc par exemple, là, sur ce d'en haut, là, je vais montrer, là, c'était sur papier, l'animation, comment je monte le plan progressivement. Donc voilà l'animation. On va voir le décor sans lumière. Là, c'était vraiment le décor brut, avec les éléments que je place progressivement. Donc les lumières, je les place, et après je rajoute des brillances, je rajoute un peu de diffusion, le grain, tout ça. Donc là, c'était vraiment aussi avoir quelque chose de très clair-obscur de passer là-dessus. Voilà. Parce que les décors, je fais en sorte, quand je les fais, de faire quelque chose de très neutre, juste avec les textures, parce que ça me permet de pouvoir faire des variations aussi selon les jours, nuit, avec le même décor, et faire des évolutions par rapport à cette idée-là.
Donc c'est quoi l'astuce, on va dire, pour faire des couleurs un peu neutres, c'est de pas aller dans des choses trop
Oui.
saturées, trop lumineuses, des choses comme ça?
Ouais, et de pas marquer trop, là par exemple, sur le voyage immobile, sur les décors, de pas marquer trop les ombres, souvent par rapport à mettre des. Là, je vais donner un exemple. Par exemple, ici, les ombres sont un tout petit peu marquées, mais j'ai pas mis des ombres très fortes par rapport à l'extérieur, parce que par exemple, la lumière du soleil, ça, je me suis dit, je verrai plus tard. C'est le genre de choses comme ça me permet d'avoir une ambiance rideau fermé, rideau ouvert, et pouvoir travailler la lumière selon ce que j'ai besoin. Par exemple, là j'ai rajouté juste les rayons de lumière, mais sur le même décor. Donc, et ensuite, je peux faire une variation sur celui-là en noir et blanc, ou dans une autre ambiance, quoi. Et
Et
c'est.
rajouter des rayons de lumière, ça se passe donc au compo, c'est ça, avec des histoires
Ouais.
de masques et des choses comme ça, parce que c'est la
Oui.
partie où je sais moins de choses.
Ouais, bah par exemple, après, moi, ça, c'est ma méthode quand je travaille sur mes films. C'est un peu différent quand je travaille sur les films des autres. C'est sur mes films, je prépare mon décor brut. Là, c'est fait, moi, j'ai fait sur Krita. Et ensuite, je fais toute la partie lumière du décor sur After Effects directement, en faisant des masques, en découpant des éléments. En me disant comme ça, parce que si je le fais sur Photoshop, après il va falloir que je remette en place la lumière sur After Effects, parce que des fois il y a par exemple, les masques, au moins c'est des masques vectoriels sur After. Donc moi je peux déjà faire un rayon de lumière sur After, voir ce que ça donne en faisant un contour progressif. Et je me dis, si ça fonctionne, ben comme ça je pourrais quand j'importerai l'animation dedans. Il suffit que je la mette que je mette l'animation dans les différentes couches de lumière que j'ai préparées sur After, sur mon décor. Et comme ça va prendre automatiquement le rendu que j'avais fait sur le décor, quoi. Donc ça, c'est aussi pour gagner du temps. Parce qu'en plus, des fois, il y a des effets de fusion qui sont un petit peu différents dans After et dans Photoshop ou dans les autres logiciels. Et donc, par sécurité, des fois, c'est pas mal de. Voilà, moi, ça me permet de simplifier les choses pour le travail qu'on a. Et puis
Et
après.
en amont, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as, enfin, sur tes courts-métrages, je veux dire, est-ce que tu as des étapes que tu sautes un peu peut-être au niveau de la pré-production, et qu'ensuite tu travailles tes lumières en post-prod, ou alors est-ce que tu as vraiment aussi des concept art bien définis avec tes ambiances lumineuses avant?
Ça dépend. Là, par exemple, là sur le bûcheron des mots, J'avais fait comme ça des illustrations qui sont pas des images du film, juste des concepts pour pouvoir voir à peu près l'esthétique que je voulais. Parce que comme là, c'est un film qui est pas réaliste, qui est beaucoup plus stylisé. Là, j'avais besoin d'avoir à peu près le grain aussi l'image et matière pour tester. Donc, c'est vrai que là, j'ai fait quelques tests, voilà, de décor, de lumière. Mais c'est pareil, c'est travaillé sur After Effects. Tous les rayons de lumière, qu'on voit, c'est pas fait sur Photoshop. Même les matières que je mets dedans. Sur les incrustes avec les enluminures et tout ça, c'est aussi intégré dans After Effects. Après, c'est aussi une déformation, moi. C'est que comme je fais beaucoup de compositing, le logiciel que je connais le mieux, c'est After Effects, et que je suis plus à l'aise que Photoshop, par exemple. Ça, c'est aussi une habitude, mais il y a d'autres personnes qui pourraient dire l'inverse et qui sont plus à l'aise sur Photoshop. Donc ça, c'est vraiment. Mais c'est vrai que moi, je le pense quand je fais un décor, toujours en prévision du compositing. Donc tout est pensé parce que je sais comment ça fonctionne. Donc je pense déjà à l'avance ce que je vais avoir besoin pour travailler, quoi. Là, c'est un plan qui existe quasiment qu'en compositing, quoi. Parce que c'est que des effets spéciaux, des effets de matière. Donc ça, c'est un plan que j'ai pas du tout anticipé à l'avance. Je l'ai créé directement sur After Effects, quoi. Alors je commence à tester d'abord le mouvement de caméra avec une petite maquette, voir un peu ce que ça donne au niveau du timing. Là, on voit en haut l'animatique. Là, j'avais essayé, c'est des caméras 3D dans After, hein, donc pour tester. Et ensuite, je commence à mettre mes couches de matière pour voir ce que. Voilà, pour donner vraiment le. Là, je crée un décor finalement en compositing.
Donc il y a un
Voilà.
côté un peu expérimental aussi
Voilà.
de manipuler des choses,
Complètement.
on teste, de mettre de l'ombre, de la lumière, du grain, et on voit ce qui se passe un peu, quoi.
Complètement. Même l'animation des ce qu'on voit des branches qui se déploient, j'avais utilisé l'outil Punaise d'After Effects, et je me suis aperçu que des fois ça fait des trucs super bizarres. Donc je pense que c'est pas du tout ce que certains recherchent avec cet effet punaise, mais ça fait des déformations qui partent dans tous les sens. Et là je me suis dit, ça donne un côté très organique, et donc j'en avais profité pour utiliser ça sur quasiment tout le film, pour les déploiements comme ça de typographie, quoi. Là, bon, là c'est un peu petit, mais là on voit il y a beaucoup de couches de compos. Là, c'est même en multiplan où j'essaye, voilà, de mettre en place. Les effets de multiplan me servent aussi, c'est que je travaille aussi beaucoup la caméra en caméra épaule. Forcément, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelque chose d'un décor plus large et de pouvoir décider de mon cadrage dans un second temps au moment du compositing. Voilà.
Et il y a un truc que je me demande par rapport à la caméra épaule, justement. Je sais pas à quel point c'est, comment dire, est-ce que tu dois placer plein de clés, faire des sortes de cycles de clés pour que ça bouge, ou est-ce qu'il y a des outils un peu, on va dire, où on lance enregistrer et puis on bouge soi-même la caméra pour que ça prenne un mouvement plus naturel?
Ben, la caméra épaule, c'était j'ai d'abord sur le bûcheron démo. Et sur ceux d'en haut, c'était une caméra avec plein de points. Voilà, j'avais fait plein de trajectoires après des effets tremblements sur mes points. Et à partir sur Féroce, là, j'ai commencé à travailler sur filmer des choses. Donc, avec un appareil photo, je filmais l'immeuble d'en face. Et après, j'ai fait du tracking sur les fenêtres. Que j'avais, parce que n'importe quel élément géométrique, ça permettait de faire du tracking. Et à partir de ça, j'ai récupéré les trajectoires de ma caméra pour pouvoir en faire après, les intégrer dans mon plan et en faire
Ah
vraiment
oui, ok.
attacher ma caméra à ce tracking que j'avais fait. Donc,
Ok, donc tu mets vraiment du tracking réel que tu as décidé à la main
voilà,
et tout
c'est
ça,
ça.
c'est chouette.
Et même, je me suis aperçu d'une limite quand je faisais ça, c'était sur. Pour être réaliste, des fois, quand on tient l'appareil photo, on le tient à bout de bras, on le tient pas comme une caméra de cinéma. Et je me suis aperçu que ça bougeait pas pareil dans les films. Par exemple, moi je prends l'exemple des films de Paul Greengrass, les Jason Bourne. Et donc là, je me suis dit, je vais prendre des petits bouts. J'ai prélevé des petits extraits de quelques secondes de ces films et je suis allé faire du tracking dessus pour essayer de récupérer des mouvements de caméra qu'il y avait sur ces films-là et pour avoir une caméra encore plus réaliste. Donc donc voilà, je suis allé voler quelques petits caméras épaules dans des films
Ouais.
live. Donc
C'est
voilà,
marrant,
ils
j'aurais
sont.
jamais pensé à faire ça, tu vois, dans le côté caméra épaule. Je me serais dit, bah, il faut le faire dans le logiciel lui-même et tout ça.
Ouais.
Mais le tracking et tout, c'est assez astucieux, quoi.
Et c'est ouais, parce que sinon ça fait quelque chose d'artificiel et on a tellement l'habitude de voir la caméra épaule au cinéma que le moindre ça, de suite notre œil il se rend compte qu'il y a quelque chose qui fait machine, qui est pas naturel. Et j'ai passé énormément de temps à faire plein de tests pour faire ça. Et c'est vrai que c'est sur Feroz que là j'ai plus où j'étais le plus satisfait du rendu de cette caméra épaule qu'on a.
Ouais.
Donc voilà.
Et il devait y avoir un gros défi aussi de compos sur tous les décors, enfin tous les arbres qui passent, les flots de mouvement, des choses comme ça.
Il y a plein de travail sur la lumière dans les arbres, les effets de glow qui apparaissent selon le soleil, selon. Et là, par exemple, j'ai un plan sur le compo de ce plan, où là, j'avais la rivière à faire. Et je me suis dit, bon, on n'a pas le temps au niveau anime pour faire ça. Donc, j'ai commencé à faire, vraiment des effets spéciaux, en bricolant sur After. Trouver un moyen de faire cette eau et de l'intégrer dans le film. Donc c'est
C'est
un.
un peu ce qu'on ferait en procédural en
Ouais,
3D.
voilà, c'est ça, quoi. Et finalement, là, j'ai testé ça et ça marchait plutôt pas mal. Et mon but, c'était, comme pour la caméra épaule, être le plus réaliste possible au niveau par rapport à du live. Là, c'est d'arriver à un rendu qui ressemble à un rendu d'anime tradi, quoi.
Ouais.
Vraiment, d'avoir quelque chose de stylisé, pas quelque chose de réaliste au niveau des vaguelettes, ou quoi que ce soit. Et après faire un vrai travail de lumière par rapport à ça. Et là, on voit là que je commence à travailler mes plans, à jouer sur l'éclairage. Là, il y avait quand même un éclairage qui avait été fait, sur le décor en lui-même. Et c'est tout après en caméra 3D pour avoir cette caméra épaule aussi qui bouge un peu tout le temps. Donc voilà.
Et c'est vrai qu'on est obligé de tout détourer, enfin en tout cas d'avoir
Ouais.
des couches différentes dans nos calques, parce que si on fait une caméra épaule sur une image fixe avec tout,
C'est
ça fait
ça.
pas l'effet quoi.
C'est ça, ouais. Et des fois, ça arrive que le côté caméra multiplan aussi peut. Ça dépend il n'y a pas de règle finalement, parce que des fois, ça peut un peu donner une impression de miniature. Donc, il faut faire gaffe entre le côté réaliste, le côté un peu stylisé. Donc, c'est assez complexe des fois à régler. Et voilà. Donc ça,
Et à chaque
c'est.
fois, tu te sers un peu des expériences des films d'avant et aussi
Ouais.
des longs sur lesquels tu travailles pour
Oui,
rajouter
oui.
des nouvelles techniques et tout, quoi.
Ben, c'est ça, là. Par exemple, sur les longs métrages, là, j'ai des exemples. Quand je disais qu'on m'avait laissé pas mal de liberté sur Miya et Migu. Par exemple, sur ce plan-là, il n'y a que l'animation de l'arbre qui a été faite. Et après, le feu, la fumée, les nuages, je me suis débrouillé au compo, quoi. Donc là, il y avait l'anime de la vague. Mais après, tout le reste, voilà, tous ces nuages, tous ces reflets, c'était. Et là, ça rappelle l'eau que j'avais fait dans Feroz, parce que c'est un peu la même technique. Et là, j'avais la totale. J'avais le feu, la glace qui devait arriver sur les arbres en feu, donc faire la vapeur. Voilà, ça, c'est des plans 100% compo. Voilà, j'avais juste deux décors, c'est tout.
Et les décors, ils étaient coloriés déjà, lumière, etc. Ou c'était
Ouais.
aussi en aplat et ensuite...
Là, ils étaient faits. Non, non, là, c'était fait comme c'était fait à la gouache, à la peinture. Donc là, tout était fait de façon plus traditionnelle. Là, j'en avais un autre, par exemple. Voilà, ça, c'était le plan du titre, où là, j'ai dû faire toutes les particules, les petits reflets.
Les
C'était
particules, c'est aussi dans After que ça se
dans
passe?
After, ouais. Je
Ok.
pense que maintenant, je le ferai dans Blender.
Ouais.
Mais à l'époque, je ne connaissais pas Blender. Donc, je l'avais fait tout dans. C'était pas ultra pratique quand même dans After. Mais voilà, c'est un. Ensuite, ben là, je peux montrer, par exemple, ça pour Phantom Boy. Il y avait pas mal d'effets spéciaux de 3D. Par exemple, toutes les petites les planches avec les boîtes de sardines, c'est de la 3D avec la pluie. Mais ça, c'est toutes des choses au début du film. Voilà, Jean-Loup a fait lié à Alain Gagnon, ils ne savaient pas du tout comment ils allaient le faire. Donc,
Ouais.
on a testé. Moi, je leur ai proposé. Et puis, ils ont vu que ça fonctionnait. Et on l'a fait, quoi. Mais eux, ils n'avaient pas prévu de le faire forcément en 3D, quoi. Là, on a un carambolage, par exemple. Ils avaient pensé le faire en anime au début. Ils se sont
Ah
dit,
ouais,
ça va
ça
être
aurait été
un peu
un gros
long.
truc.
Voilà. Donc là, je l'ai fait. Et à ce moment-là, je connaissais pas bien Blender. Hein. J'ai appris Blender avec des tutos YouTube. Hein. Donc,
Ouais.
c'est faire les collisions. Je me suis dit, bon, allez, je vais m'y mettre et je vais essayer de comprendre comment ça marche. Et voilà, j'ai préparé le plan. Voilà, après, il n'y a que les voitures, là, c'était pas moi qui m'étais occupé de la modélisation, parce que ça, c'est quand même un peu complexe à faire. Donc, surtout qu'eux, ils voulaient vraiment un rendu le plus 2D possible.
Et ça, comment ça a été fait à ce moment-là? Parce que maintenant, il y a des outils plus simples pour le faire, le cel shading et tout ça. Mais pour avoir ce rendu 2D, c'était comment? C'était déjà cel shading ajouté sur Blender facilement, tout ça?
Ouais, c'était dans Blender, j'avais utilisé Freestyle dans
Oui, c'est
Blender.
vrai que c'était ça, ouais.
C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise encore hein, maintenant, même s'il y a le Grass Pencil qui est vachement bien, mais là, toutes les voitures sont faites en 3D avec
Et ça,
l'effet.
quelle question se pose au compo pour que ce soit uniforme et que ça se fonde bien dans la 2D? Parce que c'est souvent ce qui peut faire tache un petit peu. Enfin, je sais qu'il y a des épisodes de séries animées, quand il y a une voiture en 3D, tu le vois tellement que c'est de la 3D quand tu connais le truc. Donc pour essayer de rendre tout ça un peu plus ensemble,
Ben,
quoi.
par exemple, moi, il y a un truc là-dessus. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal dès que ça se voit, quoi, là. Et déjà, moi, c'est de mettre en pad 2, des fois même en pad 3.
Ouais.
Et en gros, ça m'est jamais arrivé, je crois, de laisser là sur ces plans-là. Ça doit être en là c'est en pad 2 à chaque fois ou en pad 3 hein, parce que le fait que j'ai remarqué même quand je travaille sur la 3D de ces plans dans Phantom Boy, c'est que si c'était en anime tradi on aurait pu aller jusqu'à 12 images à 12 images secondes, mais le fait
Ouais.
que ce soit en 3D le mouvement est tellement parfait qu'on avait besoin qu'il soit encore plus dégradé que si on l'avait fait en 2D quoi, pour pas qu'on le remarque. Et c'est vrai que la 3D, moi je me dis toujours de l'abîmer au maximum quoi, pour qu'elle soit le moins visible possible. Quoi,
Et puis c'est le mouvement aussi qui parfois peut trahir un peu que c'est de la 3D, surtout quand il y a quelque chose de très complexe qui bouge, qui tourne. C'est à ce moment-là qu'on se dit bah ça peut pas être dessiné tellement c'est complexe quoi.
Et les ombres aussi, souvent, ça fait un effet de tache d'huile un peu quand un personnage tourne la tête ou quand la
Ouais.
voiture tourne parce que les ombres vont bouger parfaitement. Et c'est pour ça que des fois, moi, sur les plans souvent, les ombres, c'est la texture qui est à l'ombre. J'utilise pas l'ombre projetée en ray tracing sur ce Blender ou quoi que ce soit. Et même des fois, je me dis, ouais, c'est plus simple de la dessiner, l'ombre en elle-même. Et
Ouais.
j'avais entendu parler, mais j'ai pas vu, mais il paraît que il y avait un court-métrage du studio Ghibli réalisé par Miyazaki, je crois que c'est dans ces derniers, où c'était fait avec il y avait une chenille, je crois, qui était en 3D. J'avais eu quelques images, et je voyais que, sur l'animation 3D, ils avaient fait les ombres en 2D.
Ok,
Euh,
ouais, j'ai pas
et
vu
là, je me
ça.
suis dit, c'est vachement intéressant parce que. On peut profiter du rendu 2D, mais si l'ombre est faite à la main, elle va avoir ses petites imperfections. Et je pense que comme ça, on ne verra plus le fait que c'est de la 3D, quoi. Et ça demande un peu de temps parce qu'il faut faire les ombres à la main. Mais je pense que c'est une bonne piste, ça,
Un
pour
bon
un...
entre-deux, quoi.
Ouais, ça... Donc voilà. Après, j'ai dit... Ça, c'est des courts-métrages de Folimage aussi, où j'ai travaillé, le tigre sans rayures. Là, il y avait pas mal d'effets de lumière. Il voulait vraiment, le réalisateur, un rendu, illustration. Voilà, donc...
Et donc, quand tu fais un plan comme ça veut dire que tu as, on va dire, peut-être un masque qui suit la luciole
Oui.
pour que la lumière se mette au bon endroit. C'est
C'est ça.
comment?
Souvent, j'ai un décor, je fais un décor lumière et un décor ombre. Et
Ouais.
ensuite, j'anime un masque qui fait apparaître l'un et l'autre
Ok.
selon les besoins qu'on a. Puis là, il y avait des petits reflets. Là, j'ai animé les lucioles. Là, c'est une luciole qui était animée, image par image. Et
Ouais.
ensuite, c'est moi qui ai fait les trajectoires et qui ai mis en place, la lumière, quoi. Donc voilà. Et c'est, par exemple, là, c'est un projet de long métrage où, quand je disais, par exemple, l'exemple de la lumière avec un même décor, il passe sur le bon écran, ça, c'était un décor que j'avais fait, de jour, et qui me permettait ensuite, aussi de faire des versions, de nuit, en jouant un peu avec, les lumières, le rendu. Et là, sur ce projet-là, il y avait les réalisateurs voulaient un rendu qui fasse vraiment 2D à l'ancienne en caméra animée. Donc là, par
Ouais.
exemple, j'ai fait un bout de décor sur Blender avec un rendu en freestyle aussi, en utilisant le rendu freestyle de Blender. Et en donnant comme ça, là, c'est animé en plus à deux images ou à trois images. Et donc comme ça rappelle un peu ce qu'il y avait dans les films d'animation quand on animait une partie du décor sur Cello, en aplat. Contrairement au reste, donc voilà, pour intégrer la 3D dans la 2D, avec pas
Est-ce que
mal
tu
de...
rajoutes des fois des petites vibrations du trait ou des choses comme ça?
Là, j'avais utilisé dans des modifieurs, sur Freestyle, on peut avoir, ces vibrations de trait. Et comme la vibration est différente, et le trait est un tout petit peu différent sur chaque image. Ça permet de donner l'impression que finalement que le trait a été animé à la main. Donc ça, c'est un truc qui est vachement bien, je trouve. En plus, on peut donner des petits défauts, comme si c'était des crayonnés, et ça peut donner des choses super intéressantes, je trouve.
Je sais que moi je suis plus dans justement cette vision-là de on veut une image en particulier, on prend de la 2D, de la 3D, on fait un peu ce qu'on veut. J'ai déjà entendu des personnes préférer vraiment si c'est de la 2D, c'est de la 2D, si c'est de la 3D, c'est de la 3D. Moi je suis plus dans ce mélange-là, d'essayer plein de trucs en fait, de juste rechercher une image et pas spécialement une technique.
C'est ça. Moi, je me dis, on a plein de possibilités. C'est le rendu final qui compte. Après, le reste, je me dis, pour y arriver, on s'en fout. Que c'était. Finalement, il n'y a que ceux qui le font qui se disent, je l'ai fait en 2D, je sais que ça a été fait à la main. Mais après, ceux qui le voient, ça changera pas grand-chose. Et sur Féroce, c'était particulier parce que il y a une partie, qui se passe dans le milieu urbain, qui a été fait sur TV Paint, et tout le reste, ça a été fait sur le papier. Et c'est vrai que je peux dire, cette partie-là, c'est le côté forêt, un truc plus organique. Mais finalement, c'était pour une raison toute simple. Ça coûtait moins cher parce qu'on avait, il restait pas mal de papier de Phantom Boy. Et à l'époque, il y avait une prod qui utilisait beaucoup de Cintiq. Donc, on n'avait plus de licence TV Paint dispo. Donc, on s'est dit, bah, finalement, il n'y a qu'un personnage, autant le faire sur papier, quoi. Et c'est vrai que quand on a un seul personnage, souvent, surtout là, c'est un film d'action, il n'y a qu'un seul niveau. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir. Et sur papier, gérer un niveau, c'est pareil que de le faire, quasiment sur TV Paint. Donc, on s'est dit, on va le faire sur papier. Et les parties en numérique sur TV Paint, c'est des parties finalement qui ont été faites par un studio, en Suisse, mais eux, ils n'étaient pas équipés pour travailler sur papier. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont travaillé, directement, en anime, 2D, sur TV Paint, quoi. Donc, et en même temps, ça collait bien avec les rendus différents, quoi. Et là, en plus, c'est drôle parce que là, quand je montre un plan comme ça, je me contredis un peu parce que ce plan-là, c'est un des seuls plans urbains qui a été fait sur papier.
Ah
Mais on ne voit pas la différence, finalement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas vraiment de. Quel que soit le moyen, le résultat, c'est voilà, si on veut des traits clean, on anime papier un peu et aussi sur paint et inversement. Et le fait de l'avoir fait en papier sur Feros, c'était même plus simple parce que j'avais envie d'avoir un trait un peu sale. Et ce trait sale, ça permet. Ce que j'ai demandé, c'est que aux animateurs de pas essayer de travailler proprement, que les traits ils soient pas bien fermés, c'est pas grave, on s'en fout s'il y a des traces de doigts, s'il y a des voilà, on a tout gardé et je trouve que ça fait un rendu qui était intéressant quoi. Donc voilà, et d'essayer d'utiliser les particularités qu'on. Mais c'est vrai que moi je suis pas un puriste en me disant il faut absolument respecter une technique particulière quoi.
Ouais,
Donc
c'est
voilà.
ça. Bah, je pense juste qu'il y a peut-être des gens qui se disent si c'est fait à la main, c'est entre guillemets plus impressionnant, et si on veut me faire croire que c'est à la main, on me trahit en quelque sorte. Mais
Ouais.
je trouve que c'est un peu bizarre parce que finalement, c'est juste on fait
Après,
des images, quoi. Enfin.
moi je trouve que l'argument là-dedans, je trouve intéressant, c'est juste de dire je prends plus de plaisir à le faire à la main. Et là, je comprends. Parce que je sais, par exemple, quand je travaillais sur Phantom Boy et sur Inuitcha, Alain Gagnol, lui, il est quand même vachement plus à l'aise sur papier que sur une tablette, quoi. Donc voilà, je comprends complètement qu'il préfère travailler sur papier parce qu'il a ses repères, il a sa technique qui est ultra efficace. Et il dit, pour arriver à peu près le même rendu sur Tiffen, bah, pourquoi? Puisqu'il va plus vite sur papier. Donc voilà,
Ouais,
c'est.
c'est ça, après, là on va dire c'est la différence papier numérique, mais je pense que le truc souvent c'est la différence 2D-3D, où si on essaye de maquiller, on va dire, de la 3D en 2D, ça peut. Il y en a qui le remarquent et qui se disent, ah bah vous essayez de me faire croire que c'est fait à la main, mais moi je trouve que c'est quand même fait à la main, enfin
C'est
c'est
ça, ouais.
fabriqué par quelqu'un et tout, c'est pas. Je trouve que c'est chouette aussi dans tous les sens, et puis j'aime bien cette mode un peu maintenant de tout mélanger, de faire de l'anime 3D en pâte
Ouais,
2 et tout,
ça.
enfin c'est vraiment un truc qui me plaît ça.
Et par exemple, là, sur le voyage immobile, là, donc j'avais des plans où j'ai préparé de la 3D. Ah, j'ai enlevé l'écran. Voilà, il y avait des scènes où, pour faire mon décor, pour commencer à réfléchir à la lumière, j'ai commencé à le faire en 3D. Puis là, je me suis dit, il va y avoir plein d'éléments dans le décor à faire. Surtout à l'intérieur, l'architecture, il y a plein de perces et des fois, c'est un peu laborieux à faire. Donc, je me suis dit, je vais faire une mise en place en 3D. Donc, j'ai fait la mise en place comme ça en 3D. J'avais une base. Et puis après, je suis revenu en peinture par rapport à ce décor. Et j'ai retravaillé directement dessus, quoi. Et voilà. Et ça, par exemple, c'est le décor brut, sans lumière, juste avec une lumière marquée. Et après, on va voir que ça évolue pas mal. Voilà, ça, c'est le décor avec le compo sur After. Et finalement, je me suis dit, si ça me simplifie la vie de travailler avec une base 3D, bah, je vais
Bah oui.
et il y en a pas mal comme ça où, par exemple, là, sur un décor comme ça, sur un plan, là, le décor, il a été fait tout à la main, là, il n'y a pas de 3D. Parce que là, j'ai travaillé avec une décoratrice, elle a fait directement, donc je n'avais pas besoin de faire une mise en place 3D. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai que si moi, je l'avais fait tout seul, peut-être qu'avec l'escalier tout seul, j'aurais fait une petite mise en place en 3D.
Et puis là, il y a une imperfection aussi dans l'escalier, il est un peu tordu, etc. Donc c'est
Oui,
peut-être ça qu'a apporté le
voilà. Et
dessin.
ça, je trouve c'est intéressant parce que sinon, faire l'escalier tordu, ça prend du temps en 3D. Donc, donc autant le
Alors
faire à
qu'un
la main.
trait tordu, voilà, c'est un
Voilà.
trait.
Et voilà, c'est ça, quoi. Et là, après, je fais des expérimentations de lumière. Là, je m'étais dit, ah, je vais essayer une lumière un peu plus rouge par rapport à la thématique. Et ça, c'est un test en noir et blanc, donc ça, mais avec la même base, quoi. Donc là, c'était pareil pour eux. On avait besoin d'une cuisine. Et là, c'était un moment un peu plus joyeux. Et je voulais quelque chose de stylisé, donc avec des perses un peu écrasées. Donc ça, là, ça aurait pas valu le coup de le faire en 3D. Donc on a fait quelque chose de très stylisé. Et après, je travaille la lumière, la patine de l'image.
Et tu rajoutes une sorte de vignettage aussi un
Voilà
peu flou
aussi,
autour et tout.
oui, ça, là-dessus. Et après, là, il y a une base que j'ai faite, mais ça a beaucoup été travaillé à l'étalonnage. Là, j'ai vraiment, j'aurais pu travailler, le pousser, mais je me suis aperçu qu'un étalonneur de ciné dans une salle, il pouvait pousser encore plus loin le rendu de la pellicule. Et en plus, sur ce film-là, ce qu'on a fait, c'est que l'étalonneur, il m'a projeté c'était à Lyon, des films qu'ils avaient restaurés récemment, donc des scans de pellicule. Donc ça me permettait d'y projeter un scan et à côté, il me projetait l'image de mon film et on comparait pour vérifier si le grain était le même.
Ouais.
Donc ça permet vraiment d'aller dans l'extrême, mais là, ça devient presque de la maniaquerie. Hein. Voilà, là, c'est des ambiances avec le même décor, de pouvoir avoir des ambiances différentes. Ça évite de redessiner tout plein de fois.
Donc l'éclat de lumière, il est pas là au départ, c'est ça dans
Non,
le
non, non,
dans le décor.
celui-là, il a été fait, je crois, il a été fait sur After, hein, directement, quoi. Et c'est. Là, je ne l'ai pas, mais par exemple, là, on va voir le plan d'avant. Et là aussi, je fais varier la lumière dans la porte. Donc lui, quand il passe devant, le glow, il réagit différemment pour vraiment intégrer une atmosphère, quoi. Et c'est vrai que les effets de diffusion comme ça, j'aime bien. J'ai vachement été influencé, je pense, par l'anime japonaise qui utilise énormément ça, que ce soit Mamoru Oshii, dans Ghost in the Shell. Il y a toujours cette diffusion lumineuse. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi. Donc d'avoir jamais une image complètement piquée, d'avoir des petites brillances qui apparaissent sur certaines zones de l'image. Et c'est vrai que les Japonais utilisent beaucoup ce genre de choses. Et particulièrement, c'est d'ailleurs eux, le compositing, ils appellent ça toujours directeur de la photographie, le chef compo. Et on voit l'importance que ça a, qui est très différente de nous, où c'est souvent très technique. Alors qu'il y a quand même un apport créatif dans la partie travail de la lumière. C'est ça, moi, que j'aimerais aussi avoir souvent sur des films en partie de compositing, de se dire le compositing peut apporter quelque chose au film en plus juste d'être un assemblage technique. Voilà, et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses où je le fais peut-être plus sur mes films que sur les films des autres. Voilà, même si ça m'intéresserait aussi de faire ça, quoi. Voilà, là j'ai encore quelques plans. On voit là. C'était le projet de film d'horreur là qu'on a toujours avec Folle Image. Voilà comment je monte. Là, ça a été fait. Hein, là, ça a été fait sur TV Paint, l'animation. Et après, voilà, avec un décor qui était une base en 3D, parce que comme il était flou, là, si j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de détails. Voilà, là, on voit les différents masques pour faire des lumières, voilà, un peu de brume. Et là,
Donc en
je
fait c'est vrai que ça c'est un truc qui me enfin je pense que j'en avais conscience mais de voir des vidéos de compositing etc ça me fait vraiment comprendre le truc de on n'a pas besoin de travailler la lumière forcément pendant
Non.
qu'on fait la colo. Moi j'avais l'impression qu'il fallait faire les ombres et tout ça pendant la colo alors que on peut aussi se débrouiller au compositing.
Voilà. On peut le faire des fois. En colo, souvent, on faisait une palette par séquence pour avoir un peu, pour pouvoir faire des variations, pour pas pousser non plus de toucher toutes les couleurs du personnage sur chaque plan. Mais après, c'est vrai que pour l'intégration, moi je me dis, bah, on va l'intégrer au compo et puis on va modifier les couleurs, même les liserés de lumière. Voilà, je les ai pas, ils n'ont pas été faits à l'anime et ça permet de gagner. C'est souvent pour gagner du temps hein, aussi et maîtriser certaines choses quand c'est mes propres films. Voilà, là la lumière permet de mettre le personnage est sous la lumière, donc ça permet de l'intégrer dans le reste du décor, quoi. Alors qu'au début, il n'était pas du tout intégré. Voilà, j'ai un autre plan, par exemple, où là, on voit qu'il y a. Là, c'est une palette de base. vraiment avec des contrastes qui ont, où je me suis dit, je verrai plus tard. Le liseré, c'est juste un petit décalage de la même anime et un peu abîmé. J'avais fait un décor sur une base aussi en 3D que j'avais peinte. Et à partir de là, on voit que là, il n'y a rien qui s'intègre. Et là, maintenant, je vais monter les lumières en réfléchissant, en disant, il y a la lumière de l'extérieur qui est là, il y a les lampes, voir un peu comment ça, ce que ça peut donner pour découper un peu le personnage dans le plan. Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de. Voilà, tout est un peu écrasé. Donc, avec des liserés de lumière. Là, c'est il y a toujours un côté un peu brumeux, quoi, qui permet de. Même la fumée, je l'avais fait directement dans After. Et puis, voilà. Et puis là, je monte un peu derrière pour le décoller aussi du reste de l'image. Après des brillances.
Oui, et c'est en rajoutant
Ouais.
une petite ombre, un petit éclat de lumière qu'on sent
Voilà.
l'impact des choses autour de lui.
Voilà. Et là, je commence à vraiment. Et je pousse de plus en plus avec les lumières. Et là, on voit que, par exemple, là, de suite, il est un peu plus intégré. Et
Ouais.
après, je rajoute pas mal de filtres aussi sur l'image pour la granularité, pour pas que ce soit trop piqué, avoir un peu voilà, ce rendu un peu argentique. Et voilà, et là, d'un coup, j'en ai une image qui a un peu plus de vie, quoi. Donc
Ouais, la
voilà.
différence est vraiment ouf dans le
Ouais,
sens où
ça.
c'est vrai tu disais au tout début qu'on part de l'obscurité, enfin en tout cas c'est une des techniques, on part de l'obscurité puis on rajoute des lumières petit à petit. Et ça, je vois beaucoup plus ça pour le côté éclairage 3D.
Ouais.
Et je le pensais moins comme ça en illustration ou en
Ouais.
animation 2D.
Ouais, là c'est pareil, là, la lumière sur un plan comme ça, elle a été faite tout au compo. Voilà, c'est donc le rayon de
Ah
lumière.
ouais.
J'avais juste rajouté des petits. Là, en peinture, j'avais fait juste une version avec quelques petits liserés de lumière sur les herbes qui me permettaient juste de les placer. Mais tout ça, c'est du compo, quoi. Là, c'est un décor où il n'y a quasiment aucune ombre qui sont faites, tout est fait sur After quasiment, quoi,
Ouais.
pour lui donner cette brillance, voilà, dans la lumière et les reflets.
Et c'est là qu'il y a les connaissances en
Ouais.
photographie réelle,
Ouais, voilà, c'est.
en décor réel
Et
qu'on a
puis de
besoin d'avoir
l'observation.
pour savoir. Ouais.
Voilà, là, un plan comme ça, voilà, ça, c'est l'anime, c'est un plan un peu gore. Mais après, j'ai cette version qui est là, c'est l'anime juste qui a été coloré avec quelques liserés de lumière. Et ensuite, la version avec le compo, où c'est à contre-jour, où j'ai essayé de travailler. Le ciel, c'est une réplique d'un ciel de Féroce. Hein, je n'ai même pas refait un
Ouais.
ciel. Il était flou, c'était pas grave. Donc. Voilà, et après, j'ai essayé d'avoir des endroits où il y a un tout petit peu de lumière un peu chaude qui passe par-dessus, essayer de trouver comme ça. Mais j'ai cherché, par exemple, sur des plans comme ça, il y a des moments où je trouve pas. J'essaye, je cherche. Il n'y a pas de recette comme ça qui fonctionne à tous les coups, quoi. Et c'est aussi de l'expérimentation qu'on a. Donc, voilà.
Et c'est vrai que je trouve que c'est super de montrer tout ça parce que j'ai l'impression que en tout cas peut-être dans le côté école, de ce que je vois
Ouais.
en parlant avec les gens en école, il y a le côté un peu le compositing, c'est limite un peu le truc à la fin qui va être très technique, qui fait un peu peur, etc. Et on
Ouais.
voit peut-être un peu moins ce côté artistique, directeur photo,
Ben,
peut-être.
c'est ça, ouais. Souvent, c'est l'étape qui arrive à la fin et il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis, comme souvent, même il y a des réalisateurs, pas forcément qui ont de l'expérience, mais qui connaissent pas bien cette étape-là. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est un peu verrouillé à l'avance. Donc, il y a moins de marge de manœuvre au compositing. Donc, c'est difficile de modifier énormément de choses dans la partie compo. C'est un peu verrouillé. Et c'est vrai que moi, j'aime bien arriver tôt sur un film, sur un court-métrage. Là, par exemple, il y a un court-métrage sur lequel je vais travailler bientôt, où le réalisateur, il a commencé à montrer ses plans, ses recherches graphiques. Et là, je lui dis, Ben ça, le fait pas à l'anime. On pourra le faire au compo. Là, je vais pouvoir peut-être essayer des effets de lumière sur certaines choses. Et souvent, je fais un jour ou deux, comme ça, en début de prod, pour proposer des choses et voir un peu ce qui fonctionne. Et surtout, de ne pas attendre la fin de la mise en couleur pour être devant certains problèmes, quoi.
Ouais.
Et c'est pour ça que, voilà, ça, c'est des choses qui sont assez importantes, quoi.
D'où le fait aussi que c'est conseillé dans n'importe quel projet de court-métrage ou autre d'avoir un plan test qui n'est pas forcément
Ouais.
dans le film, mais
Ouais.
qu'on fasse un plan avec l'image qu'on veut à la fin, le grain qu'on veut à la fin. Et c'est une grosse première étape pour valider aussi les problèmes qu'on va avoir. Est-ce que c'est finalement si malin que ça de faire telle technique ou une autre et tout? Et on peut sauter cette étape assez facilement.
C'est
Je trouve,
ça.
si on se dit, bon, bah, on verra, tu vois. Donc, je sais que c'est un truc que je vais devoir faire. À un moment donné, il faudra que je touche le compo pour faire des tests et tout ça pour mon film, pour mon court-métrage. Mais là, ça me m'aide déjà un peu mieux à comprendre un peu comment ça
Ouais,
fonctionne.
ça.
Faudra que je m'y mette, quoi.
Puis des fois, même, c'est le test qu'on fait au début, souvent, il est très différent du rendu final. Mais ça permet quand même d'avoir de visualiser ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie, finalement.
Ouais.
C'est ça aussi, d'arriver à. Parce que sinon, on a des impressions, on projette des choses pendant tout le film et on peut être déçu à la fin. Alors que là, on a fait un test, on a déjà une idée concrète du rendu final. Et se dire, là, on va peut-être pouvoir améliorer un petit peu, on va pouvoir essayer des choses, quoi. Donc voilà, c'est et d'autant plus quand c'est avec des personnes qu'on connaît bien ou avec qui on a l'habitude de travailler, quoi. Et c'est vrai que des fois, maintenant, je m'aperçois, j'aime bien que j'ai travaillé sur énormément de courts-métrages en compositing, mais c'est vrai que maintenant, j'ai des préférences des fois sur certains films quand on me demande. Par rapport aussi à ce que je fais habituellement, par rapport à ce que je peux apporter, et pas que bah là, on a besoin juste de compos. Voilà, moi,
Ouais.
j'aime bien apporter un truc en plus sur les films sur lesquels je travaille, et voilà, après, c'est parce que c'est ça qui me passionne hein, aussi.
Et je me demandais peut-être pour finir si tu as une chose en particulier à dire, ce que tu aurais appris justement durant à la fois la réalisation des films, à la fois le compositing. Un truc peut-être auquel tu t'attendais pas et que t'as compris un jour et qui maintenant t'aide dans ce travail-là.
Ouais, c'est difficile de dire, mais moi je pense que c'est vraiment de penser le plan. Ce qui est au début, je pensais mon cadre. Quand je faisais mon storyboard, je faisais ma case de storyboard quand j'étais étudiant et je dessinais dedans. Et à un moment, je me suis dit, ça c'est Jean-François Laguioni qui m'a montré la façon dont il travaillait un jour. Et lui, il fait ses dessins sur une feuille, sans cadre. Et après, avec un appareil photo numérique, il va chercher son cadre
Ok.
sur le dessin. Et
Ouais.
il disait, là, il a vraiment l'impression de faire du cinéma quand il fait ça, parce que il voit comment il peut cadrer son personnage par rapport à son dessin. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, je vais essayer d'appliquer ça à tous mes films. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais fait de cadre avant mon dessin quand je fais ma case de storyboard. Voilà, je fais d'abord mon dessin, je fais mon décor, et après, je cherche le cadrage. Et ça m'a libéré à un moment au niveau de la mise en scène complètement, parce que
Ouais.
je pouvais, et ce qui rejoint après aussi le travail sur la caméra et les mouvements de caméra, épaules et tout ça, c'est que ça m'élargissait le champ de. On a tout le temps l'impression que la caméra peut se décaler un peu à droite, c'est pas grave. Et sur Féroce, même, j'avais poussé un peu ça. C'est que j'ai fait un storyboard, mais je ne l'ai pas vraiment respecté. Ce n'est pas toujours la chose à faire. Mais au moment de l'anime, je leur donnais le cadre maximum. Donc, je leur disais, là, vous avez la feuille, c'était à peu près les feuilles A4, animer le personnage. Et quand on me demandait le cadrage, je disais, je ne sais pas encore. Je animais le personnage et moi, je m'occuperai en fonction de l'animation, de choisir comment je vais placer la caméra.
Ouais.
Et quand par exemple un personnage, ben, il pouvait se baisser, se relever, ben, avec la caméra, je pouvais suivre son mouvement. Et ça donnait quelque chose de très naturel au fur et à mesure. Et ce qu'on retrouve dans du live et qu'on n'a pas forcément l'habitude dans l'animation, et d'avoir comme ça cette liberté de placer la caméra où on a envie. C'est ça, et pas être réduit juste au cadrage qui a été prévu au départ.
Donc potentiellement ça prend plus de temps aussi
Oui.
si on anime quelque chose qui ensuite sera zoomé,
Ouais.
etc. Mais
Ouais,
dans le côté
ça
en tout
arrive.
cas ressenti et tout, ça peut avoir un avantage. Peut-être dans
Oh,
un court-métrage qu'on fait
C'est ça.
seul ou quoi, ça peut être cool
Ah,
d'expérimenter ce
mais
truc-là. En
ça
production, ça prend
fait.
peut-être plus de temps.
Oui. Il faut prévenir quand même les animateurs avant, parce que des fois, ils se retrouvent
Ouais.
avec une demi-anime qu'on voit dans le film par rapport à ce qu'ils ont
Ouais,
fait.
c'est ça, t'animes le perso en
Voilà.
entier, finalement tu vois que le
Voilà.
buste et puis voilà quoi.
Voilà. Donc, souvent, c'était à l'étape du rough, quoi. Mais
Ouais.
c'est vrai qu'à l'étape de l'animatique, c'est intéressant de faire ça, de chercher son cadrage, voilà, en fonction du dessin et pas forcément dans une case. Mais après, je dis ça, c'est une méthode qui me convient, mais je pense que chacun a ses méthodes avec lesquelles ils sont à l'aise. Et je sais que Jean-François Guionis, c'est quelque chose qui est lui, il travaille comme ça. Nous, on a des affinités sur certaines choses dans le travail, donc ça collait à ce que moi je recherchais. Mais peut-être pas, ça marchera peut-être pas pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment chacun sa manière, quoi.
Et moi, je retrouve un peu ça dans la partie 3D. Enfin, je suis encore en train de me demander un petit peu si mon film sera un mélange 2D 3D. Je pense que ce sera ça. Et de modéliser la petite maison du perso en 3D, ça me donne un peu ce côté repérage et tout ça. Je sais, j'arrive bien à voir comment sera la maison. Après, pour savoir où placer les caméras, quel focal je vais utiliser, j'ai l'impression que j'ai besoin aussi de cette liberté-là de naviguer dans l'espace, quoi. Et ça, en dessin, j'ai un peu plus de mal à me le figurer parce que tu te dis à quel point tu fais un dessin grand et tout, mais en 3D, tu poses tes blocs, tu fais ton truc. Et ça me semble plus fluide et tout ça. Donc ça peut être une bonne piste aussi.
Oui, c'était ça que ça m'est arrivé récemment. C'était il y a un peu plus d'un an. J'ai travaillé pour des réalisateurs de live qui font du film de genre. Là, c'est Hélène Katté et Bruno Forzani, et qui ont un projet de long métrage en anime. Et eux, venant du live, comme ils dessinent pas, et qui sont en plus dans leur film live, ils sont ultra précis, mais vraiment au millimètre près leur cadrage. Sauf que là, et en dessin, on s'est aperçu que si je commençais là, en plus, je faisais les décors sur ce projet-là, c'était juste un teaser, mais je pouvais pas me permettre de dessiner, parce qu'eux, ils n'étaient pas sûrs de la focale, de l'angle de caméra, ils avaient besoin d'essayer. Donc c'est là que j'ai fait des mises en place en 3D de tous les décors avant de commencer à les peindre, pour pouvoir caler la caméra avec eux, voir exactement l'angle avant de me lancer dans la peinture pour pas perdre de temps. Ouais, parce que c'était parce que sinon, pour faire un teaser en plus venant du live, ils se rendaient pas compte de certaines choses qui peuvent être très très longues à faire, quoi. Donc pour un teaser de 2 minutes, au début il devait durer, c'était pour le cartoon movie, il devait durer 1 minute. Au final, il fait 2 minutes 30 le teaser. Donc et voilà, on n'était que deux, quoi. Il y avait juste en plus, je l'ai fait avec ma société à moi, et donc on est deux, on est que deux, avec Effang Wei, qui est aussi réalisatrice. Elle faisait toute l'anime et moi je faisais tout le compo et les décors. Donc sauf que quand on double la durée, en live ça gêne pas, mais en animation ça peut, c'est vite compliqué. Donc c'est pour ça que là on avait réussi à trouver des méthodes. Et ça leur a permis à l'avance de savoir que quand ils vont pouvoir lancer leur projet de long métrage, il va falloir qu'ils préparent peut-être une animatique très poussée, peut-être en 3D, peut-être même en filmant des acteurs pour avoir des refs, pour pas épuiser les animateurs si au moindre changement de position. Et voilà, c'est ça, quoi. Donc voilà, à chaque fois, le fait de faire des tests avant, ça permet de se rendre compte de ce qu'il y aura besoin dans l'avenir, quoi, sur le projet, quoi.
Ouais, c'est clair. Et peut-être, voilà, en conclusion, le court-métrage que tu as fini, il sera diffusé comment? Est-ce qu'il sera visible en festival prochainement ou des choses comme ça?
Pour l'instant, là, ouais, voilà, là, ça va être les festivals. Il va commencer sa vie en festival. Là, je sais qu'après, il y aura un DVD qui va sortir. Il n'y aura pas de Blu-ray cette fois-ci, juste un DVD en fin d'année, début d'année prochaine. Et ce sera un DVD où il y aura aussi ceux d'en haut et le bûcheron des mots qui seront dans le même. Voilà. Et il sera en VOD aussi à un moment. C'est en VOD payante, je crois, sur Vimeo, comme les autres courts-métrages de Folimage, qui existent en VOD aussi sur Vimeo. Je crois toujours, hein, mais que je dise pas de bêtises, mais je pense que oui. Donc voilà les moyens de le voir. Vu qu'il n'y a pas de diffuseur télé, il n'y a pas d'autres possibilités là que festival.
Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai des liens vers les films qui sont dispo sur YouTube, vers le making-of de Féroce et puis vers ton site. Et voilà, j'espère que ça a plu à ceux et celles qui ont regardé, de comprendre un peu plus sur le compositing. Moi, ça m'a aussi débloqué deux, trois choses. Donc, merci beaucoup pour ton partage.
Merci à toi.